7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. En cette journée internationale des personnes handicapées, nous allons faire le point sur les technologies numériques au service du handicap pour améliorer la vie quotidienne. L'accès à Internet, à la connaissance, à la mobilité, à l'emploi reste le défi majeur pour les personnes en situation de handicap. Je pense essentiellement d'ailleurs aux handicaps visibles, aux personnes non-voyantes, aux personnes malentendantes, aux personnes handicapées moteur. Pourtant, la technologie, les applications pour smartphone, la domotique dans les habitations aussi, peuvent changer la vie de ces personnes. Mais l'équipement est encore cher, même si les prix baissent. Alors, faut-il se réjouir de ces innovations technologiques ou bien masquent-elles, dans le fond, un manque d'engagement des politiques publiques à l'égard du handicap, de l'inclusion ? Les personnes handicapées, je le rappelle, représentent, selon l'OMS, 15% de la population mondiale. Les voisins et les voisines, appelez-nous si vous bénéficiez d'un équipement numérique qui facilite votre vie quotidienne ou qui vous permet d'être mieux inséré aussi dans la société. Appelez-nous via WhatsApp dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Sophie Massieu, bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, vous participez régulièrement à notre émission. On est ravis de vous recevoir.
J'ai mon rond-serviette.
J'ai 7 milliards de voisins. Vous êtes non-voyante et vous allez nous expliquer comment vous travaillez, avec quels outils, est-ce que le prix de cette technologie commence à baisser et puis que font les pouvoirs publics aussi pour rendre accessibles ces équipements, les pouvoirs publics et les entreprises. Également avec nous, Stéphanie Gâteau, fondatrice de Handy Road, une application mobile associée à un réseau de communautés qui vise à faciliter et à sécuriser les déplacements des personnes à mobilité réduite. Bonjour Stéphanie Gâteau.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone avec nous, vous êtes malentendante. Oui.
C'est ça, tout à fait. En fait, je suis polyhandicapée. Je suis atteinte d'une sourdité qui ne s'opère pas et qui n'est pas appareillable. Donc, effectivement, on reviendra dessus, mais c'est grâce à des outils numériques, comme vous l'avez dit, que j'ai la possibilité au moins de pouvoir participer en visio ou au téléphone. Et sinon, je fais de la lecture labiale intuitive en face à face. Et à côté de ça, j'ai un handicap moteur parce que je suis atteinte d'une maladie dégénérative, donc je suis régulièrement en fauteuil électrique.
Vous êtes en fauteuil électrique, vous êtes malentendante, vous vous exprimez parfaitement normalement parce que vous avez acquis le langage lorsque vous étiez entendante. Mais beaucoup d'auditeurs doivent se dire, mais comment peut-elle nous entendre au téléphone ? Quelle est cette technologie ?
En fait, c'est justement, vous parliez de l'opportunité des nouvelles technologies qui permettent à l'heure actuelle, alors de manière, on va dire, un peu restreinte, parce que ça ne convient pas à toutes les surdités. En fait, il y a des gens qui ont des surdités, plus des acouphènes, plus de l'hyperacousie, etc. Donc, en même temps, ça permet de déployer des solutions complémentaires pour des gens comme moi qui n'étaient pas éligibles aux solutions classiques. Donc, c'est effectivement un appareillage et une application sur mon qui est connectée à mon smartphone qui me permet d'entendre au moins des sons. Et c'est à moi, selon le contexte, selon le sujet, d'aller très très vite et de comprendre ce qui se passe, même si j'entends pas parfaitement les voix.
Stéphanie Gâteau, vous n'entendez pas ma voix, mais ma voix est retranscrite dans des sons que vous parvenez à entendre et à décoder. C'est bien cela ?
Tout à fait. Alors, ça demande beaucoup d'énergie. Mais en fait, on s'y fait rapidement parce qu'en plus, on est tellement content de pouvoir communiquer avec autrui que on est motivé pour faire des efforts. Mais ça demande effectivement, par contre, une gymnastique qu'on s'approprie très vite.
On y reviendra bien sûr à cette technologie parce que évidemment, c'est une technologie qui est très mal connue. Donc, en tout cas, grâce à la magie de cette technologie, vous êtes en direct avec nous au téléphone, Stéphanie Gâteau, alors que vous êtes malentendante. Sophie Massieu, non-voyante, vous pouvez nous expliquer. Vous venez de lire la météo là sur l'appli météo de votre smartphone.
Oui, vous aviez envie que je fasse joujou avec mon smartphone parce qu'il a ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Donc, alors moi j'ai le problème exactement inverse à celui de Stéphanie. Évidemment, j'entends parfaitement bien, mais en revanche je vois rien ou pas grand chose. Et donc moi, ce sont les mots qui vont m'aider à prendre contact avec beaucoup de réalités, y compris avec des infos hyper pratiques. Et donc en effet, j'ai un téléphone de base, mais simplement on peut activer dessus un lecteur d'écran, et ce qui permet alors de prendre connaissance de ce qui s'affiche. Alors, vous vouliez une petite démonstration.
Pendant que Sophie vous parle, là, les voisins et les voisines, elle a son smartphone sous la table et elle est en train de triturer son smartphone rien qu'à l'oreille pour recaler son smartphone sur la météo.
Alors, donc, je vais hausser un petit peu le volume. Vous vouliez savoir où on est? On est à... Donc, nous sommes à ici les Moulineaux, il est 11h, il va y avoir de la pluie. À midi, qu'est-ce qui va se passer?
Nuageux, 7 degrés. Non. Midi, averse, 7 degrés, 61% de risque de pluie.
Midi, 7 degrés, 61% de risque de pluie.
13 heures, averse, 7 degrés, 68% de risque de pluie.
Voilà. Bref, il va faire un temps moche toute la journée. Bon. Mais vous voyez,
vous
ça permet...
cette lecture ultra accélérée.
Alors,
à la voix.
Il est pas au maximum du débit. Moi, je le mets à 85%. Ça veut dire que ça peut aller encore plus vite. Mais on peut aussi le mettre à 50%. Et dans ce cas-là, il parle beaucoup plus lentement. On ne va pas passer l'émission à faire des essais, mais je suis sûre qu'on peut le ralentir.
Non, mais ça y est, on est dans le vif du sujet. Stéphanie Gâteau, c'est plus compliqué pour vous, Stéphanie, là, de comprendre la météo en mode accéléré, vous qui êtes malentendant.
Moi, je ne comprends rien. En fait, c'est très simple. Je ne comprends rien du tout.
Mais moi, je ne comprends rien à la lecture labiale. On est à un partout, Stéphanie, tout va bien.
Ça y est, on est au cœur du sujet. Les nouvelles technologies, comment peuvent-elles révolutionner la vie quotidienne des personnes en situation de handicap? Nous serons aussi en ligne à Dakar avec Radimou Rassoul Tala, qui est président de l'association Handicap au Sénégal. Il prépare le lancement d'une plateforme de recrutement en ligne qui s'appelle Inclusion Job pour faciliter l'accès à l'emploi décent aux personnes en situation de handicap. Il a d'ailleurs obtenu le deuxième prix du concours Orange Entrepreneuriat Social en 2020. Et il reste maintenant aux entreprises, évidemment, de jouer le jeu de l'inclusion. Je vous rappelle qu'en Afrique, environ 80 millions de personnes sont en situation de handicap selon les Nations Unies. Des chiffres qui vont fortement augmenter dans les années à venir à cause de la croissance démographique et d'un vieillissement de la population. Voilà. Et puis en fin d'émission, je vous annonce quand même jusqu'au bout la suite à un autre sujet, reportage auprès d'un passeur d'histoire, Gabriel Kinsa, qui est un célèbre conteur congolais de 83 ans qui anime des stages pour enfants à Paris pour devenir apprenti griot et donner le goût du récit. Quelques messages d'auditeurs, de voisins, de voisines sur le handicap et les nouvelles technologies. Samuel est à Bukavu en RDC. Les handicapés ici n'ont pas beaucoup été éduqués et informés, mais le numérique pourrait être une solution dans certains pays. Mais les connexions Internet ne sont pas suffisamment développées pour que cela fonctionne. Et puis aussi un message posté d'un voisin qui est à l'île Maurice. Écoutez-le.
Bonjour, je m'appelle Enrico et je suis de l'île Maurice. Je suis non-voyant. Bon, moi, j'utilise Internet. Je suis plutôt familier avec l'ordinateur. Et le portable mobile également. J'utilise Joj sur mon PC. Et pour le téléphone, autrefois, j'utilisais Telorion. Mais comme c'est plus accessible et c'est devenu Claria, et voilà que Claria également, c'est plus accessible, mais c'est resté toujours sur le portable. C'est-à-dire, pour moi, j'arrive à utiliser l'Internet, le mobile, assez facilement. Et pour me déplacer également, et je rencontre pas trop de problèmes avec ma canne. Je dis pas que tout est correct, mais il reste toujours beaucoup à faire. Je suis autonome, je travaille, je mène une vie normale, j'ai ma petite famille. Mais je trouve qu'il y a encore des choses à faire pour que des personnes autrement capables puissent mener une vie normale. Merci.
Merci à Enrico. Et puis un message aussi d'une athlète en situation de handicap, Fawziatou.
Le numérique peut être une solution pour améliorer le quotidien des personnes handicapées en ce sens où, grâce au numérique, par exemple, on peut créer des panneaux sonores pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Par exemple, dans un lieu où il y a des panneaux qui indiquent les sorties de secours, la personne qui est malvoyante ne les voit pas. Je ne sais pas, peut-être que la personne handicapée aura un logiciel sur son portable ou bien un petit appareil à mettre dans son oreille qui, à quelques mètres, va lui signaler qu'il y a tel panneau qui indique telle chose. Moi, je suis handicapée moteur amputée de ma jambe. Le numérique peut faciliter un peu plus mon quotidien en ce sens où, grâce au numérique, on peut créer des prothèses très, très interactives qui vont répondre au mieux aux besoins de la personne en situation de handicap.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, grâce à tous ces témoignages, y compris ceux de nos invités, vous avez un échantillon de tout ce qui se fait, de tout ce qui transforme la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Là, on entendait la révolution aussi des prothèses connectées. Tout de suite, un reportage à Yaoundé, dans un centre multimédia inclusif pour personnes malvoyantes. Il a été inauguré cette semaine. C'est une initiative du Cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. De quoi comprendre comment le numérique et le multimédia peuvent changer la vie des personnes malvoyantes. C'est un reportage de Fabien Essiane au Cameroun.
Voilà, nous sommes au centre multimédia inclusif du CEJAC et bâtiment que nous avons dénommé CENI, ce qui signifie Centre National de l'Inclusion.
Coucou Bertin, vous êtes le directeur du Cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun.
Donc, au sein de ce bâtiment, nous avons réservé tout le premier étage à ce que nous avons donc appelé Centre Multimédia Inclusif. Et quand vous prenez ce virage à gauche, vous avez la première salle, la salle de production. Ça, c'est l'espace CC Web n'est pas en place. Alors, dans cette salle, vous avez 4 ordinateurs qui peuvent vous permettre, vous avez des laptops et des desktops qui peuvent donc permettre aux non-voyants de naviguer.
Jomo Franceline, vous êtes étudiante ici. Tout ceci représente quoi pour vous?
Ça va aussi nous permettre d'être dans les TIC, de s'adhérer à la nouvelle technologie et d'essayer aussi d'être comme des personnes valides.
Et en face donc de cette salle CC Web, nous avons maintenant une salle que nous avons baptisée la Sonothèque. Alors cette salle dispose des équipements de pointe, comme vous pouvez le noter. Vous avez par exemple ici la machine à lire. Vous lisez le document soit à haute voix, soit en affichant en gros caractères sur l'écran. Donc c'est un outil très très intéressant parce qu'il peut avoir des documents en écriture ordinaire dont la personne non-voyante voudrait rapidement prendre connaissance.
Aujourd'hui, on passe du braille à l'informatique adaptée à la déficience visuelle. Donc le centre multimédia vient renforcer cette communication déjà fragile entre les personnes handicapées de la vue, d'autant plus qu'ils pourront utiliser l'ordinateur comme moyen de communication et moyen d'accès aux informations. Ça va permettre d'améliorer la performance scolaire.
Vous avez de ce côté-là 3 bureaux qui vont être le bureau des collaborateurs, donc de ceux qui interviennent dans le fonctionnement de la structure.
Lionel Chuente, vous êtes enseignant d'informatique pour personnes non-voyantes. Est-ce qu'on peut dire que cette numérisation et ces nouvelles technologies vont vous permettre de passer un cran au-dessus?
À présent, on peut avoir et le matériel et les logiciels et même les supports qui permettront que les déficients visuels puissent avoir cet accès-là et repousser les limites de leur handicap. Il faut dire que jusqu'à présent, beaucoup n'y croient pas véritablement. Ils se disent encore que c'est du rêve.
Coucou Bertin, lorsque vous vous engagez dans cette voie de la numérisation, qu'est-ce que vous recherchez en fait?
Le but, c'est d'amener les personnes handicapées en général à utiliser les équipements. Et on s'est rendu compte qu'au Cameroun, il y a pas mal de personnes handicapées qui n'utilisent pas Internet. Or, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le numérique, c'est vraiment un outil de travail, un outil indispensable, n'est-ce pas, pour l'évolution de notre monde. Donc, le but, c'est d'encourager l'utilisation de ces équipements aux personnes handicapées. Dans un premier temps, ils viendront se former parce que plusieurs ne savent pas comment aller sur Internet. Nous avons pensé qu'il était important d'encourager les personnes handicapées à s'intéresser au numérique. Mais comme vous pouvez le noter, nos structures n'étaient que de très faibles capacités. Nous souhaitons que l'exemple du Cameroun soit dupliqué dans les autres pays de l'Afrique et nous voulons collaborer avec les non-voyants des autres pays pour voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, lorsque on ne sait pas se servir de l'ordinateur, on est un vrai analphabète. Donc, j'encourage les personnes déficientes visuelles des différents pays de l'Afrique à ne pas hésiter à prendre contact avec nous. Ils peuvent visiter notre site internet, Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Ils vont certainement nous retrouver et collaborer avec nous pour que nous les formions. Nous pouvons les accueillir ici pour les former. Nous pouvons envoyer des experts, n'est-ce pas, pour les former dans leurs différents pays.
Reportage signé Fabien Essian à Yaoundé au Cameroun, Sophie Massieu. Évidemment, l'accès Internet, c'est la base.
Oui, bien sûr, l'accès Internet, ça a été une révolution pour tout le monde, hein, avec handicap ou sans handicap, mais effectivement, avec un handicap, ça a été encore bien plus révolutionnaire, parce que tout d'un coup, dans les années 2000, pour ce qui est de la France, enfin, quand moi j'étais tout juste encore à l'école, j'ai pu, à l'école de journalisme, j'entends, j'ai pu tout d'un coup lire la presse, consulter un annuaire, chercher une recette de cuisine, regarder les horaires de train, enfin, toutes ces choses qui peuvent paraître d'une banalité à mourir, affligeante, mais qui en fait ne m'était pas accessible. Je ne pouvais pas même chercher un numéro de téléphone avant. J'appelais forcément le numéro des renseignements téléphoniques qui coûtait cher, etc., etc., parce que je n'avais pas accès au papier. Donc, effectivement, l'accès à Internet a été une véritable révolution, sans parler des mails, etc., qui m'ont permis d'échanger, comme tout le monde, avec la Terre entière, et un peu trop maintenant, finalement. On en voit beaucoup trop.
Justement, rentrons dans les détails. Quelles sont les applications aujourd'hui qui sont les plus importantes pour votre vie quotidienne de personnes malvoyantes?
Alors, d'abord, c'est ce qu'on appelle les lecteurs d'écran. Donc, tout à l'heure, un de vos auditeurs citait JAWS. Je pense que c'est vraiment le logiciel universel. Voilà, il est payant. Il y en a un qui est gratuit. Donc, je le cite aussi parce que ça peut faciliter la vie à pas mal de personnes qui ont peut-être moins de moyens, qui s'appelle NVDA. C'est un peu le même principe. C'est un petit peu moins bien fichu, mais enfin, ça reste quand même tout à fait précieux. Et donc, ça permet que ce qui apparaît sur l'écran soit à la fois lu par une synthèse vocale et si on a un outil, que ça s'affiche en braille sur ce qu'on appelle une plage tactile. En gros, c'est un écran qu'on touche. Voilà. Et à partir de là, une fois
donc,
qu'on a ce lecteur d'écran
voilà. vocal, et braille
voilà,
tactile.
On choisit ou on a les deux. Simultanément, l'un après l'autre. Enfin, moi, j'utilise les deux constamment, en permanence. Tantôt, je passe de l'un à l'autre, enfin, selon ce dont j'ai besoin. Et une fois qu'on a activé ce lecteur d'écran, du coup, ça permet d'accéder à plein d'applications, que ce soit un lecteur GPS pour se déplacer, que ce soit l'application du journal qu'on préfère, que ce soit, j'en sais rien, Le Monde, Mediapart, enfin, voilà, ou d'autres publications. Je parle de celle-ci parce que moi, c'est celle-ci que j'ai dans mon iPhone, mais voilà. Et voilà. Et donc, ça permet d'utiliser à peu près tous les mêmes système que tout le monde. Après, la vraie différence, c'est cette possibilité d'avoir un lecteur d'écran. Après, il existe aussi quelques applications spécifiques, comme celle que Stéphanie a développée, dont elle parlera mieux que moi, ou comme une que j'utilise, moi, qui s'appelle Blind Square, et qui est un GPS spécifique, donc que je couple avec un bon vieux GPS classique du style Google Maps, et je le mets en plus, parce que ce truc-là, il me dit quelle est la prochaine rue que je vais croiser. Il me dit à 10h, rue Trucmuche et rue machin. Et il me décrit aussi un peu les boutiques devant lesquelles je passe. Alors, pas toutes, ça n'est pas exhaustif, mais c'est une application collaborative, Blind Square, et donc quand les gens l'ont rempli, je sais qu'il y a la boulangerie de mes rêves, pareil, à 100 mètres, et je sais si elle est plutôt à 9h ou plutôt à 14h, car régulièrement, les personnes en situation de handicap visuel, les aveugles, quoi, pour faire simple, on leur indique les choses en leur disant c'est à 9h, c'est à 10h par rapport à toi, par exemple, notamment quand elles skient. C'est vraiment oui. Cette histoire de cadran solaire, en quelque sorte, c'est très, très, très utile.
Cette appli Blind Square, c'est une application qui est payante pour vous ?
Oui, elle est payante. Alors, il y a longtemps que je l'ai achetée, donc je ne saurais pas vous dire combien ça coûte, mais elle est payante et elle est sur les smartphones.
Évidemment, elle ne fonctionne que parce qu'il y a de la géolocalisation.
Oui, absolument. Bah oui, c'est le principe d'un GPS, c'est bête comme chou.
Les limites au niveau des sites internet, les chiffres sont quand même assez accablants sur le fait que une grande proportion de démarches en ligne proposées par le service public ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées.
Alors en France,
pas totalement.
En France, les limites, ce n'est pas la loi qui est bien faite, qui a bien posé tous les jalons nécessaires de la mise en accessibilité, c'est la volonté politique de l'appliquer. Voilà. Parce qu'en fait, depuis la loi de 2005, les choses ont été posées. Depuis 2011, toutes les démarches en ligne
devraient... La loi handicap, hein.
Ouais. Oui, pardon. Depuis 2011, toutes les démarches devraient être accessibles. Elles ne le sont toujours pas. Alors, je ne connais pas le chiffre exact, mais il est certain qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas tout à fait accessibles ou pas du tout accessibles. Et pas seulement les démarches publiques, mais aussi des démarches des grandes entreprises. Pour ne pas la citer, notre compagnie aérienne nationale, jusqu'à présent, enfin, je n'ai pas testé depuis 6 mois, mais jusqu'à il y a 6-7 mois, je ne pouvais pas réserver de billet d'avion parce que je n'ai pas accès au calendrier pour le choix des jours où je veux voyager. Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, le site n'est pas allé jusqu'au bout.
N'est pas allé jusqu'au bout. Je peux remplir la ligne de départ et d'arrivée. Et encore, je crois que c'était pas simple. Mais bon, bref, en bidouillant, j'y arrive. Mais en revanche, sur le calendrier, je peux pas l'activer. Donc, ça veut dire que je réserve par téléphone et que donc ça coûte plus cher parce que les offres qui sont en ligne sur Internet ne sont pas toujours les mêmes. Et voilà. Donc,
Le service téléphonique est payant
non,
bien
ça,
souvent.
Non,
pas
non.
Forcément.
Là, ça non. Ils ont mis un service spécifique. Ils ont bien compris quand même qu'ils n'étaient pas complètement bons sur ce coup-là.
Pour les personnes handicapées.
Oui. Tout à fait.
Stéphanie Gâteau. Stéphanie Gâteau.
Là, je voulais faire un focus et je vais essayer d'être très simpliste sur l'explication puisqu'on nous-mêmes, en ayant créé une application, on s'est posé la question justement. Et il y a une chose qui est très compliquée et pour laquelle, effectivement, vous venez de le dire, on est très en retard, c'est que sur le principe d'une application, on a l'impression que tout le monde peut l'utiliser. Sauf que si en amont, en termes d'architecture, elle n'a pas été fabriquée, ce qu'on appelle de manière inclusive. Donc, on appelle ça de la conception inclusive. Donc, vous vous dites, qui va l'utiliser? Quelle cible? Est-ce qu'elle va avoir telle ou telle limite? Est-ce qu'elle va avoir des problèmes moteurs, de concentration, visuel, peu importe? En fait, Microsoft, le département de Microsoft, a créé un département de conception inclusive où il y a 250 types d'altérations qui sont référencés. Donc en fait, les applications qui sont créées sans prendre en compte en amont les briques de cette conception inclusive, effectivement, en termes d'usage, il y en a plein que j'ai essayé d'utiliser qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas adaptées à mes problématiques. Donc en fait, clairement...
C'est le cas d'une compagnie, ça veut dire, Stéphanie Gâteau, pardonnez-moi, c'est le cas d'une compagnie aérienne, ça peut être le cas d'une compagnie aérienne ou d'un service public. On fait la conception pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap et ensuite on va se demander comment l'adapter pour les personnes en situation de handicap.
C'est trop tard. Et c'est trop tard parce qu'en fait, il faut vraiment créer ces applications ou ces sites internet en amont avec effectivement des process spécifiques où on peut référencer tous les troubles et on peut les résoudre. La deuxième chose, c'est que vous avez la première brique, vous avez l'application, mais après vous avez également l'interface. L'interface, ça va être votre écran sur votre smartphone, ça va être l'écran quand vous cherchez des sites internet, etc. Et il y a aussi des solutions que l'on peut rajouter, mais il faut que celui qui l'a créé ait ce réflexe de se dire, dans la population, oui, je fais un site internet, ça peut être effectivement une compagnie aérienne ou un service public, mais quelle est la cible et quelles sont les personnes qui vont l'utiliser et comment je leur donne les moyens d'avoir un site accessible. Or, pour l'instant, c'est un sujet que j'essaye de développer régulièrement, mais toutes les entreprises ou les startups qui déploient des applications dans le domaine numérique et digital, malheureusement, n'ont pas forcément conscience puisqu'elles ne sont pas forcément concernées. Donc, elles font quelque chose pour la majeure partie de leur cible, sauf qu'elles oublient que dans leur cible, effectivement, il y a des personnes qui fonctionnent différemment.
Mais oui, on a tout dit. Vous avez tout dit, Stéphanie Gâteau, sur la façon dont on aborde la question du handicap, finalement, Sophie Massieu.
Tout à fait.
Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut concevoir les choses de manière, on appelle ça aussi native, et profiter de ce qu'on appelle aussi l'expertise d'usage des gens qui s'en servent. Après, parfois, il y a des choses toutes bêtes, et justement, cette expertise d'usage, elle permet de faire avancer les choses. Moi, en fait, ça m'horripile qu'une compagnie nationale n'y pense pas et ne fasse pas ce qu'il faut pour changer les choses, surtout quand je l'aurais dit plusieurs fois. Mais en revanche, quand c'est une petite boutique, par exemple, j'ai un exemple précis en tête. J'ai ma librairie de quartier préférée qui organise régulièrement des rencontres littéraires, etc. Et pendant plusieurs fois, je recevais leur newsletter et je me la faisais décrire parce qu'en fait, ils mettaient l'information sous forme d'image. Puis un jour, pas fait comme un autre, je leur ai écrit. Alors cette fois-ci, un mail très gentil, alors que j'étais beaucoup moins sympa avec Air France parce qu'ils ont des services qui sont faits pour ça.
Et voilà, on a nommé Air France. Ça y est.
Avec
Sophie Massieu,
compagnie nationale, de toute façon.
On ne peut pas réserver ses billets sur Air France. Non, il y a un vrai bug.
Voilà, donc la compagnie nationale française. Voilà. Mais donc bref, Air France, j'ai pas été très tendre. En revanche, cette petite librairie de quartier qui organise des super rencontres littéraires et dont j'avais envie de prendre connaissance, je leur ai simplement écrit un gentil petit mail en disant c'est super ce que vous faites, simplement vous mettez le contenu de votre information sous forme d'image, je ne peux pas la lire, ce qui serait génial c'est que vous la mettiez sous forme de texte. La newsletter d'après, elle est arrivée sous format texte et après je suis allée prendre mes petits pieds, je suis allée dans la librairie, je suis allée dire merci, c'est super. Donc parfois c'est un tout petit truc et maintenant ils n'envoient plus des newsletters que sous forme de texte. Il suffit juste de dire tiens, ah bah oui, on n'y avait pas pensé, on ne savait pas, c'est normal qu'ils ne sachent pas, ils ont combien d'aveugles qui sont dans cette librairie.
Stéphanie Gâteau, dites-nous en quelques mots comment fonctionne l'application mobile Handy Road, qui est associée à un réseau de communautés qui vise donc à faciliter, à sécuriser aussi les déplacements des personnes à mobilité réduite. En quelques mots.
Effectivement, nous, on s'est attelé à une problématique universelle qui est la cible des personnes à mobilité réduite. Alors, je précise quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas concernées, mais en fait, c'est toute personne qui peut être altérée ponctuellement ou de façon permanente pendant son déplacement. Donc, ça peut être une maman enceinte avec une poussette et des courses. Une PMR, ça peut être une personne effectivement atteinte de handicap, mais ça peut être aussi une personne âgée qui a des troubles de concentration ou d'orientation, ou même quelqu'un qui va se casser la jambe pendant 3 mois et qui ne pourra plus conduire et se déplacer normalement. Alors tout le monde a touché du doigt pendant le confinement en plus la problématique de la mobilité et du déplacement et de se retrouver isolé. Il s'agit quand même de répondre à des chiffres qui sont quand même assez élevés, puisqu'on estime qu'un tiers de la population est concernée par la problématique du déplacement et de la mobilité, et que ces personnes-là, qui en général ont des aidants, c'est-à-dire pour se déplacer, on va accompagner mamie pour qu'elle aille acheter sa pâtisserie dimanche, on va l'emmener chez le coiffeur, bon, on va m'emmener à des événements. En fait, l'aidant du quotidien a besoin de recueillir de l'information et d'être sûr que la personne peut se déplacer en toute sécurité. C'est-à-dire que la première question qu'on se pose, ce n'est pas le lieu où on va, l'accessibilité, ni la mobilité, le trajet, c'est au quotidien, est-ce que je prends le risque de sortir ? Et si j'ai une difficulté, un obstacle, une chute, n'importe quoi, comment est-ce que je peux trouver une solution ? Et c'est là où, effectivement, ce que vous avez dit, c'est que les outils à l'heure actuelle du numérique et du digital améliorent, peuvent contribuer effectivement à répondre à des enjeux économiques, sociétaux. Là, on parle des PMR, c'est l'accès à l'emploi, parce que si je ne me déplace pas, je ne peux pas travailler, l'accès à la santé, rompre l'isolement, etc.
Donc concrètement, l'application Handy Road, elle permet de signaler les obstacles sur le parcours. On va y revenir tout à l'heure, Stéphanie Gâteau, mais donc d'évaluer le trajet pour éviter aussi les ruptures de déplacement. Et puis, il y a toute une communauté aussi qui se met en place avec cette application. Si on va dans une autre ville, si on peut trouver quelqu'un pour nous aider. Nous allons bien sûr y revenir. Les voisins, les voisines, vous nous appelez si vous bénéficiez d'un équipement numérique qui facilite votre vie quotidienne ou qui vous permet d'être mieux inséré aussi dans la société. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Pendant ce temps, avec Gaël Faye, son nouvel album, on va faire une petite pause, ou plutôt, on va respirer.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain, triste face à face, angoisse du réveil, reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue, Michel grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en direct et nous respirons grâce à Gaël Faye. Mais surtout, on essaye de voir loin, de voir positif, comment les nouvelles technologies peuvent transformer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap en cette journée internationale des personnes handicapées. Alors, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a encore beaucoup de problèmes. Sophie Massieu, journaliste, nous disait les textes réglementaires sont là, mais des sites internet de services publics, de grandes compagnies, de grandes entreprises ne sont pas encore suffisamment accessibles pour des personnes, par exemple, non-voyante. Nous en discutons aussi également avec Stéphanie Gâteau qui a créé l'application Handy Road, une application mobile associée à un réseau de communautés pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Stéphanie Gâteau, vous nous le disiez, vous êtes vous-même dans une chaise roulante à certains moments de votre vie et puis vous êtes surtout malentendante, mais là aussi avec la magie de la technologie, vous parvenez à être au téléphone avec nous et à parfaitement entendre nos propos et à réagir. Et nous sommes aussi maintenant en ligne avec Radimou Rassoul Tala à Dakar, qui est président de l'association Handicap au Sénégal. Bonjour Hadi Moura Soultala.
Bonjour Emmanuel Baptiste.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en train de lancer une plateforme de recrutement en ligne pour faciliter l'accès à l'emploi décent aux personnes en situation de handicap. Cette plateforme va s'appeler Inclusion Job. En quoi va-t-elle consister? Elle n'est pas encore tout à fait prête. Ça sera probablement pour 2021. Dites-nous.
Comme vous l'avez annoncé, l'association handicap.fr est créée en 2008. Donc, c'est une association composée de professionnels, des juristes, des agents de l'administration publique et privée. Il y a aussi, en fait, de manière générale, ce sont des gens qui sont dans les institutions publiques et privées. Moi qui vous parle, je suis au ministère de la Culture et de la Communication. L'objectif de handicap.fr est de participer à la formation et à la promotion des nouvelles technologies pour soutenir les personnes en situation de handicap à travers des projets communautaires innovants. En 2008, on a lancé la plateforme handicap.fr. Cette plateforme a été relookée en 2017.
Mmh. Hadi Moura Soultala, pardonnez-moi, je suis désolée, mais on est très pressé par le temps parce que vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer sur ce sujet, nos invités aussi. Mais dites-nous aujourd'hui, en quoi va consister cette application Inclusion Job, donc c'est-à-dire vraiment une plateforme qui va faciliter l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées?
Comme le projet Inclusion Job cible en particulier les personnes ayant des incapacités physiques notoires, c'est-à-dire physique, mental, intellectuel et sensoriel. Parce que nous, on a eu l'occasion de travailler dans le cadre du projet Emploi Handicap de l'ONG Handicap International. Le nouveau nom, c'est Humanité Inclusion. Mm. Nous nous sommes rendus compte qu'au Sénégal, il y a plus de 1200 personnes en situation handicap qui sont à la recherche d'emploi. Plus de 500 demandeurs sont inscrits sur la base de la fonction publique. Donc, c'est cette problématique de l'emploi qui fait que nous, en tant que start-up, je pense ça veut dire proposer une solution.
Oui, alors, évidemment, les chiffres que vous citez sont probablement supérieurs, sûrement sous-estimés, et on peut l'imaginer. Vous avez obtenu le deuxième prix du concours Orange Entrepreneuriat Social en 2020. Ça vous a rapporté d'abord quelques milliers d'euros pour finaliser la plateforme. Donc, il va y avoir des jobs en ligne. Le coût du projet est supérieur, évidemment. Il vous manque encore de l'argent. Mais la vraie question, c'est d'abord pour les entreprises, comment adapter les postes de travail avec quel financement?
Le projet tourne autour de 15 millions. Nous avons reçu 4 millions au niveau Orange Sénégal. Mmh.
Le coût total, c'est 23 000 euros. Il vous faut 23 000 euros. Répondez à ma question, s'il vous plaît, Hadi Moura Soultala. Comment les entreprises peuvent, en admettant qu'elles jouent le jeu, qu'elles proposent des jobs pour les personnes en situation de handicap, comment elles peuvent financer l'adaptation des postes de travail?
Au niveau du projet, il y a ce qu'on appelle les préalables, c'est-à-dire on va faire des audits d'accessibilité. C'est-à-dire avant de s'insérer une personne, on va faire ce qu'on appelle des missions handicap. On va aller dans des entreprises pour les conseiller à rendre confortable à ce qu'on appelle l'ergonomie. Mmh. L'ergonomie adaptée pour ce travail.
En fonction des handicaps. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi d'orientation sociale au Sénégal permet une incitation ou une contrainte pour les entreprises au Sénégal de jouer le jeu de l'inclusion?
La loi d'orientation sociale de 2010 dit que, au niveau des institutions publiques et privées, il doit avoir un quota réservé de 15% au minimum. Mais vu que cette loi, pour qu'elle soit applicable, il faut qu'il y ait le décret d'application. Il n'y a pas encore le décret d'application signé au niveau de l'État du Sénégal.
Il n'y a pas les décrets d'application signés d'une loi de 2010.
De la loi d'orientation sociale de 2010. Donc rien n'oblige ces entreprises à recruter des personnes handicapées. Mais dans le cadre de la diversité, de l'inclusion, il y a certaines chefs d'entreprise qui disent que le problème des handicaps, c'est une question d'ordre social. Donc eux, ils recrutent des personnes handicapées à partir des projets comme le projet Emploi Handicap de l'ONG Handicap International. Vous avez vu récemment, comme le restaurant de KFC Yatal au Sénégal, on a recruté 10 personnes handicapées. Donc il n'y a pas de contrainte qui les oblige à recruter. Mais dans le cadre de la diversité, de l'inclusion, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a aussi des personnes en situation de handicap.
Donc ça veut dire finalement, seule la pression de la société civile peut faire avancer les choses.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Hadi Moura Soultala. Je rappelle que vous êtes président de l'association Handicap au Sénégal et on attend avec impatience, évidemment, cette nouvelle plateforme de recrutement en ligne pour faciliter l'accès à l'emploi décent des personnes en situation de handicap. Stéphanie Gâteau, l'application que vous êtes, que vous avez mis en place, Handy Road, a déclenché un énorme enthousiasme en France. Il y a eu un reportage sur France Info, 2 millions de connexions. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que cette application est reproductible dans d'autres pays, y compris dans des pays en développement?
Alors, tout à fait. Et en fait, je voudrais revenir sur le sujet précédent qui était l'emploi. Pour les entreprises voilà, qui ont l'obligation ou qui souhaitent embaucher une personne atteinte de handicap, la problématique, une fois qu'elle a trouvé le poste, c'est comment je vais me déplacer. Est-ce qu'au quotidien, voilà, je serai suffisamment mobile? Donc, ça, c'est vraiment une vraie question de l'utilité de développer des outils qui sécurisent le déplacement. Donc nous, on est parti d'un apostolat très simple, c'est qu'on ne pourra jamais, quel que soit le pays, même si la problématique est universelle, on ne pourra jamais mettre aux normes tous les commerces, les agences de voyage, les entreprises, parce que c'est trop long et trop coûteux. Donc l'idée, ça a été de se dire comment un outil numérique peut être plus agile, plus rapidement efficace, et comment on peut s'appuyer dessus pour trouver des solutions. Je vous rappelle juste quelques chiffres. Les PMR, ce sont en France 25 millions de personnes et leurs aidants du quotidien, c'est 11 millions de personnes.
Les personnes à mobilité réduite.
Tout à fait. Donc, ça fait quand même une cible qui, au quotidien, rencontre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des ruptures de déplacement. Alors, ça peut être entre l'aéroport et l'agence de location de voiture, parce qu'on ne peut pas et pousser son fauteuil et mettre sa valise entre les dents. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Et donc, au quotidien, on a, les paralysés de France estiment qu'on a voilà 9 chances sur 10 d'avoir une problématique. Donc, l'idée, ça a été, dans cette application, de mettre le maximum d'informations en remontant à la fois des alertes, ça peut être un chantier en cours, ça peut être un trottoir trop étroit, ça peut être une boutique justement qui est inaccessible, pour faciliter la mobilité et l'accessibilité grâce à des trajets optimisés. C'est-à-dire qu'entre deux routes, si je vois qu'il y a 10 obstacles sur un chemin et que sur l'autre, il n'y en a que 2, évidemment, je vais choisir celui où il n'y aura que 2 obstacles. Mais la problématique aussi, c'est de se dire, si je suis en difficulté, comment je fais? Je dois faire une remontée d'alerte et être géolocalisé pour qu'on puisse rapidement me venir en aide. Donc ça, c'est vraiment important. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur, on va dire, des valeurs d'entraide, de solidarité, de bienveillance, pour lesquelles on est convaincu que c'est aussi un enjeu pour lutter contre l'exclusion en créant tout simplement du lien social.
Avec une communauté qui est recensée par cette application. Et cette application, elle est gratuite ?
Oui, alors elle est 100% gratuite parce que nous, on ne veut pas que ce soit l'utilisateur et l'usager qui soit pénalisé une fois de plus et qu'elle soit accessible à tous. Donc en fait, on déploie l'application, ça peut être par ville, ça peut être par département, par région, ça dépend de leur politique, hein, comme vous en parliez tout à l'heure, pour donner cet outil à leurs citoyens. À côté de cette application, on a effectivement ces groupes d'entraide sur lesquels n'importe qui peut effectivement s'inscrire soit comme personne ayant besoin d'aide ou en proposant son aide. Et on en a eu beaucoup pendant le confinement, effectivement, qui ont proposé de passer du temps ou de rendre service aux personnes qui étaient... Voilà, moi-même, je n'avais pas du tout le droit de sortir parce que j'étais comme personne à risque. Et sur ces groupes d'entraide qui sont sur Facebook, donc qui sont accessibles et 100% gratuits, vous pouvez publier, vous pouvez échanger, ne serait-ce que sur des informations aussi. C'est-à-dire que demain, moi, je vais à Vivatech, porte de Versailles, à Paris. Je vais demander à la communauté parisienne de me dire comment je peux y accéder, est-ce qu'il y a une porte particulière.
Qui fournit donc des informations. Stéphanie Gâteau et Sophie Massieu, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais que vous nous disiez, alors on l'a dit, vous avez aussi l'une et l'autre des équipements technologiques qui sont coûteux. Est-ce qu'à terme, certes, les applications, certaines d'entre elles sont gratuites parce que financées par d'autres moyens, est-ce que les prix sont en train de baisser pour l'accès à toutes ces technologies, Sophie Massieu?
Alors d'abord, il y a des choses qui sont maintenant totalement gratuites, y compris pour les lecteurs d'écran, c'est-à-dire que les smartphones aujourd'hui, de façon native, donc dans tous les smartphones, y compris dans le vôtre Emmanuel, il y a un lecteur d'écran que vous n'activez pas parce que vos yeux fonctionnent, mais vous pourriez l'activer. Donc là, il n'y a aucun surcoût. On achète un X-phone, par exemple, et il est équipé de
logiciel qui va bien. Qu'est-ce qui reste encore très cher, alors ?
Ce qui va rester cher, en tout cas pour ce qui est des déficients visuels, ça va être les équipements en braille.
Stéphanie Gâteau, vraiment quelques secondes.
sur les prix.
Moi, effectivement, je pars du principe, en tout cas, que ce n'est pas l'usager d'être pénalisé. Ils le sont déjà bien suffisamment. Donc, on doit, soit par le modèle économique aussi que l'on a choisi en finançant les applications, mais faire intervenir les parties prenantes concernées.
Alors justement, les parties prenantes concernées, Sophie Massieu, vous souhaitiez intervenir là-dessus parce qu'il y a un marché économique, c'est certain, hein, pour des entreprises, mais ces entreprises, elles ont besoin d'un coup de pouce des pouvoirs publics.
Ben oui, tant que les pouvoirs publics n'appliquent déjà pas eux-mêmes les règles qui se sont fixées, les lois qui sont fixées, on le voit, tout à l'heure, votre intervenant au Sénégal disait que les décrets d'application n'étaient pas votés sur une loi de 2010. Nous, on a les décrets d'application, mais pour autant, on n'applique pas le texte. Donc voilà, effectivement, il faut à la fois être un peu exemplaire et arrêter de faire de la communication politique qui est du flan et juste déjà être exemplaire soi-même et après les entreprises suivront. Je ne pense pas que ce soit forcément elles les plus mauvaises élèves, franchement.
Une chose est sûre, les innovations technologiques sont sur la table. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous nous avez d'ailleurs fait la démonstration toutes les deux. Merci. Merci Sophie.
J'avais juste envie de dire un mot. Je sais que vous êtes en retard.
Non, c'est bon.
Juste un mot. La technologie ne fait pas tout. Rien ne remplacera jamais la valeur de l'humain. On peut faire tous les progrès qu'on veut. On aura parfois toujours besoin d'un accompagnement humain et c'est précieux. Ou de l'accompagnement, pour ce qui me concerne, d'un animal, un chien.
Merci à vous Sophie Massieu, journaliste. Merci Stéphanie Gâteau, fondatrice de l'application mobile Handy Road. Bien évidemment, on en reparlera.
Je vais l'installer.
Et oui, exactement. Et maintenant, reportage, je vous avais annoncé en début d'émission un reportage auprès d'un conteur, passeur d'histoire, passeur de récits. Gabriel Kinsa raconte une passion qui se transmet. En octobre dernier, le célèbre conteur congolais de 83 ans a animé pendant une semaine un stage pour enfants à l'Institut des Cultures de l'Islam de Paris. Et notre reporter Inès Edel Garcia a suivi cette initiation auprès de jeunes apprentis griots.
Bonjour. Moi, je m'appelle Gabriel. On m'appelle Gabriel.
Gabriel.
Voilà. Et Gabriel, son pays, c'est le Congo. On répète le Congo.
Comme moi, le Congo.
Et le Congo, c'est un pays qui se trouve en Afrique. On répète Afrique.
Afrique.
Alors, vous savez pourquoi Gabriel est venu ici? Vous criez pour sauter, vous
criez.
Vous criez. Oh, c'est déjà très bien ça. Ma chérie.
Raconter des histoires.
Raconter des histoires. Tu viens me dire autre chose. Bon, mais moi, je vais vous le dire. Je suis venu pour une toute petite chose. C'est qu'on va partir. On va partir où? On va partir en
Afrique.
Et on va rentrer dans la forêt. Mais pour visiter la France, chérie, il faut quand même un guide. Et ça sera qui notre guide?
Gabriel.
Oh, mais non. Ça sera ma très chère grand-mère. Et ma grand-mère, pour nous faire visiter la forêt, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous raconter des
histoires.
Là, normalement, je ne vais pas amener les enfants à être griots, mais beaucoup plus conteurs. On est beaucoup plus libre quand on est conteur, parce que quand on est griot, il y a des contingences à respecter, il y a des règles à respecter, il y a des épopées à respecter. Mais ici, comme ils ne sont pas investis d'une charge comme ça, coutumière, pour être griot, on reste dans le compte.
Et donc, à l'issue de la semaine de stage, quel est l'objectif? Vers quoi vous voulez les amener, les enfants?
Ah ben, on va essayer un peu de dire notre histoire, qu'on va sortir de notre imaginaire. Et à l'issue de cela, bien sûr, que les enfants n'aient plus peur de prendre la parole. Mais la parole, c'est aussi le geste, le regard, le souffle. Voilà, ce qui nous fait bondir le matin. Voilà, c'est ça.
Et le silence aussi. Ah mais, ça s'apprend.
Mais le silence, c'est la parole. Le silence, c'est un son. Et donc, c'est une parole, le silence.
On prend sa feuille. Voilà. Donc, on met les trois éléments essentiels qu'on a vus tout à l'heure. Alors, on a parlé des ambiances, mais les ambiances, on va détailler un peu les ambiances. Donc, dans les ambiances, on va mettre bruit. Quels sons tu entends dans la forêt? Et ces sons, de qui ça peut provenir?
Des animaux.
Des animaux, des humains, des arbres aussi.
Du vent.
Du vent. Et quoi d'autre? Des insectes.
De l'eau.
De l'eau. Et quoi d'autre? Des fantômes.
Ah
ben vous les avez oubliés? Des esprits.
L'imaginaire du continent africain est différent d'autres imaginaires. Pourquoi là, faire du conte africain, convoquer voilà, la calebasse, les animaux de la savane. Qu'est-ce que ça apporte en plus?
C'est l'univers, c'est la couleur, c'est les odeurs, c'est le son. Et moi, j'ai en plus choisi l'Afrique forestière. Donc, c'est autre chose que si je me retrouvais dans l'Afrique des déserts. Donc c'est pour ça que ces enfants-là, je leur fais comprendre aussi le sens de l'ailleurs, le sens de sortir de ce qu'on est. C'est cet imaginaire qui crée la liberté de l'être. Sans imaginaire, il n'y a pas de liberté.
Le crocodile avance, 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 et saute. Il suit sous le bois comme une spaghetti. Et le crocodile, elle fait bien
manger.
Et cet enfant est toujours en train de
dormir.
Il entend un oiseau. L'enfant se réveilla et remarqua l'oiseau. Et voulant attraper l'oiseau, mais cet oiseau vole de branche en
branche.
L'enfant essaye toujours de l'attraper, mais il n'arrive pas. L'enfant avait faim et il voit un tronc avec 15 champignons. Il en mangea 14 et au bout du 15e, un grand esprit surgit et dit:
Qui es-tu? Où vas-tu? Que fais-tu?
Mon nom est Mpale Djabira et j'ai 12 ans. J'étais le narrateur de cette histoire tout le long.
Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon narrateur à ton avis?
Il faut du courage, une bonne mémoire. Et la détermination.
Et alors, comment il vous a fait travailler, Gabriel, pour parvenir à cette histoire?
Bah, chaque jour, en fait, on répétait. Ensuite, quand j'avais fini, on disait qu'est-ce qui allait pas. Mais aussi, il y avait des rôles, comme l'enfant dit, le grand esprit dit. Après, ils savent qu'après, que c'est à eux et tout ça.
Et maintenant que tu connais cette histoire par cœur, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas la raconter à d'autres personnes?
Oui, à d'autres personnes, oui, après, à mes petits-enfants, à mes enfants, tout ça, un petit projet.
Et sachez que le conteur Gabriel Kinsa a publié de nombreux albums pour la jeunesse. Son dernier livre, Foukoubouto et autres contes, est paru aux éditions Présence africaine. Il est également disponible en CD audio. Voilà un joli cadeau pour les fêtes, puisque nous disions dans notre émission d'hier que les parents ne pensaient pas forcément à offrir des histoires à leurs enfants. Et sinon, n'oubliez pas aussi nos 55 contes gratuits en podcast sur le site de RFI.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous vous souvenez sûrement de la voix d'Héloïse Auria, qui a accompagné pendant des mois l'école à la radio. Eh bien, vous tapez sur internet 7 milliards de voisins, des contes à écouter, et le Père Noël arrive chez vous. Voilà, demain 7 milliards de voisins, entreprendre en Afrique avec le coach Didier Akwété. Vous le savez, le conseil de jeunes entrepreneurs et ensuite un débat avec des dirigeants de PME. Quel management en contexte de crise? Comment conserver les talents sur le continent africain? Vous nous contactez dès maintenant pour nous parler de vos difficultés et de votre entreprise au 33 7 64 45 51 41. Et merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz aujourd'hui était au standard. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI. Merci à vous tous de votre fidélité chaque jour récompensée. On est ravis d'accueillir vos appels, vos témoignages et vos questions. Et bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions sans modération en podcast.
Sept milliards de voisins, c'est fini.